Chapitre 3. Le peuple de Dieu a été libéré d'Égypte. 1. L'exemple du peuple de Dieu lorsqu'il a été libéré de l'Égypte. Il y a bien longtemps, le peuple de Dieu était en esclavage à cause de ses péchés. Le peuple était attaché aux choses du monde, il croyait aux choses du monde, aux gens du monde, au gouvernement, etc. Ce n'était qu'une question de temps et ces mêmes personnes, en qui ils avaient confiance, les ont achatés, les esclavant. Dieu a alors utilisé Moïse pour les délivrer d'une main puissante. Moïse dit à Pharaon, « Laisse mon peuple partir. » Mais Pharaon n'a pas laissé le peuple partir, parce qu'il était arrogant, il était puissant. Pharaon pensait, « Ma parole est loi, ce que je dis va. » Il était plein d'orgueil, alors il n'a pas laissé le peuple partir pour servir Dieu. Qu'a fait Dieu? Il a puni Pharaon et son régime avec des pestes. Les pestes. La première peste est arrivée et tout le monde s'est dit « Oh, c'est une coïncidence ». La deuxième peste est arrivée et ils ont dit « Ce n'est rien ». La troisième peste est arrivée, la quatrième, jusqu'à ce qu'il y en avait tellement que Pharaon n'en pouvait plus. Un jour, Pharaon a maudit le peuple de Dieu, « Si je vous revois, je vous tuerai tous ». Le peuple de Dieu ne peut pas être maudit, car aucun outil dirigé contre nous ne peut prévaloir. Tout ce que les méchants profèrent contre nous, c'est ce qui retombera sur eux. C'est la loi de Dieu de semer et de récolter. Un jour, lorsque Jésus a été fait prisonnier, Pierre a essayé de le défendre en prenant une épée pour tuer le soldat qui allait emprisonner Jésus. Le soldat a esquivé, mais l'épée de Pierre lui a tout de même coupé l'oreille. Jésus prit l'oreille, guérit le soldat et dit à Pierre, Matthieu chapitre 26, verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Dieu donne des instructions à Moïse. Dit à tout le peuple de prendre un agneau sans défaut et de faire un sacrifice en tuant l'agneau. Prenez ensuite le sang de cet agneau et appliquez-le sur la porte de votre maison, afin que votre maison soit protégée par le sang de l'agneau. Le peuple a obéi et a mis le sang de l'agneau sur la porte, en haut, en bas, à gauche et à droite. Ceci est très important car cela représente le Christ sur la croix, l'agneau envoyé par Dieu. L'agneau de Dieu. Avant que Jésus ne vienne sur terre, les gens venaient de temps en temps au temple, à des heures précises, et apportaient leurs agneaux, qu'ils sacrifiaient en disant « Dieu, j'ai failli et je dois être condamné. Accepte la mort de cet agneau qui n'a pas de défaut, pas de péché, c'est moi qui ai péché. Acceptez cet échange. » Et Dieu a accepté. Lorsque Jésus est venu, il a été appelé l'agneau de Dieu, afin qu'une fois pour toutes, un agneau envoyé par Dieu meure à notre place. Les portes barrées. Pour en revenir à l'histoire de l'Égypte, tous les croyants ont obéi aux instructions de Dieu. Lorsque l'ange de la mort est entré en Égypte, des cris déchirants ont été poussés par les pères et les mères qui ont vu que leurs enfants étaient morts. Mais, dans les maisons des croyants, dont les portes étaient barrées avec le sang, rien de grave ne s'est produit car ils étaient protégés par Dieu. Ce sang était un symbole pour que l'ange de la mort ne puisse pas entrer. 2. Quand une personne donnait sa vie à Jésus, elle est protégée par le sang de Jésus. Quel est l'aspect pratique pour aujourd'hui? Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, elle reçoit le sang de Jésus barré dans la porte de son cœur et l'ange de la mort n'a aucun moyen d'entrer dans sa vie. Aujourd'hui, nous entendons les peuples du monde crier, tout comme, à l'époque, que le peuple de Dieu entendait ses voisins crier, « Mon fils est mort. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il faut comprendre le parallèle. Lorsque vous entendez un voisin, un collègue, un ami, pleurer, « Ma fille ou mon mari est en train de mourir d'un cancer, mon fils a le sida, j'ai perdu mon travail », c'est la malédiction dans la vie de quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Les malédictions. Ces malédictions tuent les gens, elles les détruisent. Ce sont les démons qui châtient les gens. Pourquoi? Parce que les gens n'écoutent pas Dieu, ils ne sont pas intéressés par Dieu, pensent qu'ils savent tout, se moquent des choses de Dieu, ils se moquent de la maison de Dieu et des ministres de Dieu. Alors Dieu les abandonne et les laisse à la merci des démons. C'est pour cela que les gens sont en train de souffrir. La protection des dieux. À l'époque de l'Égypte, le peuple de Dieu a vu la main puissante de Dieu. Le peuple de Dieu a vu que tous ceux qui avaient barré sa porte avec le sang étaient sains et saufs. Le peuple était chaussé et habillé, prêt à partir d'Égypte en direction de la terre promise. Ce baptême est plus qu'un simple plongée dans l'eau, il signifie que je vais partir d'où je suis, quitter les amitiés que j'ai, arrêter de fréquenter des gens qui se moquent de Dieu, cesser de fréquenter des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Ne pas fréquenter les gens qui n'aiment pas Dieu. Je ne peux plus fréquenter des gens qui n'aiment pas Dieu. Je dois choisir d'être ami avec les amis de Dieu. Ah, mais mon père sera offensé. C'est ma maman, mon oncle, ma cousine. Je n'offenserai certainement pas Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il faut choisir. À qui veux-tu plaire? Ton père? Ta mère? Ton employeur? Le gouvernement? Je n'offenserai certainement pas Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est la personne la plus importante de toutes. 3. Le parcours commence. Le peuple a finalement quitté l'Égypte. Pharaon était dévasté, anéanti, parce qu'il avait été défait par un peuple qui était esclave et qui, aux yeux de Pharaon, était des misérables. Pharaon a invoqué ses dieux, appelé ses prêtres. Il est allé dans leurs hôpitaux, dans leurs cliniques, comme les gens ont aujourd'hui leurs dieux. Mais cela ne lui a servi à rien. L'arrivée à la mer Rouge. Le peuple a sorti d'Égypte et se diriguait vers la terre promise. Entre-temps, quelqu'un a parlé avec Pharaon. « Quel grand Pharaon que tu es, avec tout l'argent, avec l'huile, avec l'armée, avec tout ce que tu as en main, ta propre religion et tu laisses partir tes esclaves ?» Et Pharaon en colère a dit quoi ? « Moi, faible ? Vaincu ? Jamais ?» Alors il s'est lancé à la poursuite du peuple avec sa puissante armée. Pendant ce temps, le peuple de Dieu allait à pied, sans armes, avec ses enfants, ses petits-enfants, lentement. Quelle chance avait le peuple de Dieu face à cette armée ? Zéro. La leçon à tirer, en vous faisant baptiser, vous échapperez à l'enfer et au diable. Mais pensez-vous que le diable va arrêter ? Il n'arrêtera pas. Le diable veut vous ramener à l'esclavage, aux vieilles méthodes, aux vieilles pensées, aux amitiés malsaines. Le diable veut vous ramener à l'esclavage. Alors il lance sa puissante armée à vos trousses et vous pensez, « Je n'ai aucune chance, je dois me rendre. » Mais vous ne pouvez pas vous rendre. 4. Ne vous rendez pas du chemin de Dieu, Dieu vous ouvrira un chemin. Le peuple était devant la mer Rouge, il n'avait aucun moyen d'échapper à l'armée de Pharaon. Mais Moïse a levé son bâton, l'a approché des eaux et Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Exode chapitre 14, versets 21 et 22. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Si vous ne cédez pas dans votre chemin avec Dieu, si vous ne faiblissez pas, si vous ne vous prosternez pas devant personne, Dieu fera certainement un chemin pour vous. Dieu fera un chemin même là où il n'y a pas de chemin, parce que Jésus est le chemin. Dieu ne sera pas avec celui qui pense qu'un gouverneur ou le système du monde est meilleur ou plus grand que Dieu. Une telle personne construit sa maison sur du sable. Une telle personne verra des malheurs et des problèmes dans sa vie. Pourquoi ? Elle s'est retirée de la protection de Dieu. Nous devons intégrer cette histoire dans notre vie, car c'est ce qui arrive à de nombreuses personnes. Ces personnes n'avaient aucune solution possible, mais Dieu a fait ce que personne d'autre ne peut faire. Dieu a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Jésus fait un chemin. Jésus est le même aujourd'hui qu'il l'était autrefois. Il trace aussi un chemin dans votre vie, là où il n'y a pas de chemin. Il arrange même des choses qui n'existent pas, juste pour vous bénir. Si seulement vous ne regardez pas en arrière, vous ne baissez pas les bras, vous ne vous prosternez pas devant d'autres dieux. Alors Dieu dit, « Puisqu'il croit en moi, je serai son Dieu. » Et pour Dieu, rien n'est impossible, il n'y en a pas d'autre comme lui. Dieu veut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Pourquoi Dieu permet-il certaines choses? Pourquoi semble-t-il parfois que Dieu est sourd, ou qu'il met du temps à répondre? Le calendrier de Dieu est différent du nôtre. Dieu veut voir qui croit vraiment en lui, qui suit vraiment Dieu au point de ne pas échanger Dieu pour quelqu'un d'autre. La fournaise ardente. Lorsque nous ne nous inclinons pas comme Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente, le diable chauffera la fournaise deux fois plus. Daniel chapitre 3. Si la personne continue à ne pas se prosterner, le diable la chauffe encore trois fois, le diable la chauffe quatre fois, jusqu'à ce qu'elle atteigne sept fois plus. Ça peut sembler que Dieu n'apparaisse pas, mais il est à côté de vous. Dieu était au milieu du problème. Dieu n'a pas enlevé les jeunes du problème, mais Dieu était avec les jeunes au milieu du problème. Dieu les a protégés et les a délivrés. Daniel chapitre 3, verset 28. Nebuchadnetsar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » La victoire. Pendant ce temps, le peuple de Dieu traversait la mer Rouge, ils allaient à pied avec des enfants, des valises, ils allaient lentement, et l'armée de Pharaon avait des chevaux et des armes. Pourquoi l'armée n'a-t-elle pas pu approcher la population? Que s'est-il passé? Dieu a fait quelque chose de surnaturel. Exode chapitre 14, versets 19 et 20. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Dieu a mis de la lumière devant pour que le peuple puisse voir le chemin, mais il a mis de l'obscurité si profonde derrière que l'armée de Pharaon ne pouvait pas voir le peuple de Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, non seulement il tracera un chemin, mais il fera en sorte que votre ennemi ne puisse pas vous atteindre. Il peut sembler que vous êtes presque en train d'être à tendre, il peut sembler que les choses vont de plus en plus mal, mais ils ne vous atteindront pas, car si Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous. La mer Rouge s'est ouverte, c'était un baptême de masse dans l'eau. Le baptême de ces gens signifiait qu'il était sorti du pays de l'esclavage et qu'il l'avait traversé. 5. Aspects pratiques du baptême. Tous les démons sont noyés dans les eaux du baptême. Quand le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge, Moïse a touché l'eau et la mer s'est refermée. Tous les ennemis de Dieu se sont alors noyés. Exode chapitre 14, versets 26 à 28. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Deux choses se sont produites. 1. L'ennemi a poursuivi le peuple, même après que le peuple ait été sauvé. 2. L'ennemi a été noyé dans la mer Rouge au moment du baptême. L'aspect le plus important lorsque vous êtes baptisé dans les eaux, c'est l'aspect pratique du baptême, les démons qui vous poursuivent, que vous le sachiez ou non, sont noyés dans l'eau. C'est pour cela que pratiquement toujours la personne qui va être baptisée est attaquée par des problèmes, des choses étranges la veille. Pourquoi ? Parce que le diable sait qu'il sera noyé une fois pour toutes lorsque la personne sera baptisée de l'eau. 6. Après le baptême, il n'y a qu'un seul chemin, marcher avec Dieu. Après le baptême, 1. Je ne peux pas revenir en arrière, la mer est déjà fermée. 2. Je n'ai qu'un seul chemin, marcher avec Dieu. Le désert. Dieu a fait passer le peuple par un désert avant qu'il n'atteigne la terre promise. Mais même ainsi, le peuple n'a pas eu faim dans le désert, n'a pas souffert de maladie dans le désert. Même s'ils étaient dans le désert, ils ne manquaient de rien. Il est très important de le dire, car beaucoup de croyants ne comprennent pas ce que c'est que d'être sauvés. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils continuent à vivre de la même manière, mais ils continuent à vivre à la manière du monde, mais ils ont toujours des amis qui détestent Dieu. Beaucoup de croyants ne sont jamais bénis, ou s'ils le sont, c'est très peu, parce qu'ils continuent à croire au système de Pharaon, parce qu'ils continuent à croire au système que les hommes créent, pensant que c'est ce qui l'aidera, le sauvera, etc. Alors Dieu se mit en colère, et ne bénit pas ses croyants. Qui avait-il dans le désert? Il n'y avait pas de pharmacie ni d'hôpitaux, il n'y avait pas de maison ni de voiture, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. Le peuple de Dieu n'avait donc qu'une seule option, dépendre de Dieu. Et c'est ce que Dieu voulait enseigner au peuple. Dieu pourvoit à tous les besoins. Dieu peut pourvoir à tous les besoins, et nous n'avons besoin de personne d'autre. À cette époque, dans le désert, personne n'avait pas faim, personne n'avait pas soif, les vêtements n'étaient pas abîmés, il n'y avait pas de maladie. La nuit, dans le désert, il fait moins 20 degrés. Et pendant la journée, il fait entre 40 et 50 degrés. Mais personne n'est mort de froid parce que la nuit, Dieu a mis un feu qui était la colonne de feu. Personne n'est mort non plus de chaud pendant la journée, parce qu'il y avait un nuage blanc, qui faisait de la climatisation. Exode chapitre 13, verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu voulait enseigner à son peuple, « Je suis ton Dieu, je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins, je suis Dieu qui guérit tes infirmités, je suis le Dieu qui te pourvoit. Je n'appartiens plus à ce monde. Je vis dans ce monde, mais je n'appartiens pas de ce monde. » Lorsque Dieu a conduit le peuple à travers le désert, il voulait leur montrer beaucoup de choses, mais le cœur du peuple était encore plein du monde. Il est facile pour Dieu de délivrer une personne de l'esclavage, de la maladie, de la pauvreté, etc., mais il est difficile d'enlever l'Égypte du cœur. Ce n'est pas Dieu qui enlèvera l'Égypte de votre cœur, c'est vous qui devez y travailler. En Afrique, on dit, il est facile d'enlever un singe de la jungle, mais d'enlever la jungle du cœur du singe. Vous pouvez embellir le singe, lui mettre un costume et une cravate, lui mettre des lunettes, lui mettre dans une voiture ou dans un avion, mais je vous assure que le singe fera toujours des macaques. La Bible parle d'un homme appelé Nabucodonosor. Il était l'empereur d'un grand nombre de pays. Le cœur de Nabucodonosor était rempli de vanité, et il voulait être Dieu. De fil en aiguille, Dieu le chassait, il lui ôta l'esprit de l'homme et il lui donna un esprit de bœuf. Daniel chapitre 4, verset 33. Au même instant la parole s'accomplit sur Nebuchadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Que s'est-il passé? Nebuchadnetsar, un homme qui avait beaucoup d'argent et une grande armée, a été vu en train de manger de l'herbe, comme un animal. Au bout d'un certain temps, Dieu lui a redonné l'esprit de l'homme, pour voir s'il avait retenu la leçon. Daniel chapitre 4, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Le roi Nebuchadnetsar a reconnu que Dieu est Dieu, mais le fils du roi Nebuchadnetsar, par exemple, n'a pas tiré de leçon de l'histoire de son père. Daniel chapitre 5, verset 1 à 31. Fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Une main mystérieuse apparut et se mit à écrire sur le mur. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Le roi appela tous ses sages, mais personne ne put lire. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Alors le roi, fils de Nebuchadnezzar, fit venir Daniel. Daniel chapitre 5, versets 17 à 24. Daniel répondit en présence du roi, « Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. » Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Daniel disait ainsi, « Dieu te dit que tu es un fou. Ce n'est pas parce que tu es roi, que tu as de l'argent et une armée, que tu te crois grand. Tu utilises les outils de Dieu. Tu as dépassé tes limites. Il te suffisait de voir qui était ton père, ce que Dieu a fait à ton père, pour voir s'il avait appris sa leçon, mais tu n'as rien appris. » Daniel chapitre 5, versets 25 à 28. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptée, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesée, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisée, ton royaume sera divisé et donne aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, il mourut et son empire, construit par son père, fut donné à un autre gouvernement. Nous voyons ici qu'avec Dieu, on ne joue pas.